Mes frères bien-aimés, c'est la journée la plus sombre de notre année qui vient de se terminer, et j'ai envie de dire ouf. Enfin, notre Seigneur ne souffre plus. Enfin, les pleurs de sa mère sont sèches. Enfin, son corps repose dans le sépulcre. Il est évident que, connaissant la fin de l'histoire, nous ne sommes plus angoissés en écoutant la passion du Christ. Mais il n'empêche, c'est à chaque fois une chape de plomb qui tombe sur notre âme et qui fait naître en elle une certaine tristesse, une certaine langueur. Aussi, nous sommes toujours quelque peu soulagés quand le récit de cette passion prend fin. Quoi qu'il en soit, au milieu de ce tableau sombre que vient de nous dépeindre l'évangéliste saint Jean, il y a tout de même certaines lueurs qui ont brillé autour de notre Seigneur et qui brillent encore aujourd'hui. Et pour le plus grand bien de notre âme, je voudrais en retenir une. Il s'agit de sainte Véronique. Les évangélistes n'en parlent pas, mais la tradition orale n'a rien oublié de son geste et l'a porté jusqu'à nous. En le gravant dans la sixième station du chemin de croix, Véronique essuie la face de Jésus. Si je veux attirer notre attention sur ce geste, que seule la délicatesse et le courage d'une femme ont pu produire, c'est tout simplement parce que nous vivons dans un monde gouverné par l'efficacité et que ce geste échappe justement à tout raisonnement efficace. Car quelques secondes après le passage de Véronique, le visage du Christ était de nouveau couvert de sang et de sueur. En quelque sorte, son attitude a donc servi à rien. Et en accomplissant ce geste, elle n'a rien gagné, si ce n'est des coups de la part des soldats romains et la honte d'avoir approché un malfaiteur. Mais l'amour exigeait d'elle cet acte. L'amour exigeait qu'elle soulage le sort de cet homme meurtri, même si ce soulagement ne dura que quelques secondes, ne fut que passager. Et même s'il y a eu une complète disproportion entre les risques encourus et le résultat obtenu. En ce sens, sainte Véronique est l'icône par excellence de l'amour en ce qu'il a de superflu, de l'amour en tant qu'il ne va pas vers ce qui est utile ou exigé, mais vers ce qui est inutile et inattendu. Eh bien, mes frères, il faut que nous emboîtions le pas de cette femme et que nous nous lancions définitivement sur le chemin de l'amour superflu. Et pour cela, arrêtons de mesurer nos efforts, arrêtons de rationaliser notre amour, et laissons-lui libre cours. Imaginons par exemple qu'un de nos amis tombe dans le coma suite à un grave accident de voiture. Au début, nous allons bien sûr lui rendre visite régulièrement, mais très rapidement, nous hésiterons à le faire. À quoi bon ? Nous demanderons-nous. Cela me fait faire de la route en plus, je rentre plus fatigué à la maison, et en plus, il ne ressent rien, il ne répond rien, il ne se souviendra sûrement de rien, si tant est qu'il se réveille un jour. Ce raisonnement, mes frères, est tout à fait compréhensible. Mais si nous le posons, c'est que nous ne sommes plus alors dans la logique de l'amour, mais dans celle de l'efficacité. À quoi bon ? Voilà le signal que l'efficacité a fait irruption dans notre cœur en se cachant sous une apparence de rationalité. À quoi bon ? Voilà le signal que le ver de l'efficacité est dans le fruit de notre amour. À quoi bon ? Voilà le signal que le démon de notre cœur s'est réveillé. Malheureusement, ce « à quoi bon » fait très souvent surface en nos existences. Face à notre mère qui est en maison de retraite et qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, à quoi bon lui rendre visite? Elle ne me reconnaît même pas. Face à notre frère qui est nul en maths et qui, la veille du bac, nous demande de l'aide pour réviser, à quoi bon travailler avec lui? Cela ne lui fera gagner qu'un ou deux points. Face au repas qu'il faut préparer pour son fils et ses amis, qui ont l'habitude de manger à McDo, à quoi bon mijoter un bon petit plat au lieu de leur acheter du surgelé, puisqu'ils iront manger des saletés le lendemain? Eh bien, dans toutes ces situations, si nous suivons ce « à quoi bon », c'est que nous avons quitté la compagnie de Sainte Véronique. Bien sûr, dans notre existence, nous ne pouvons pas être sur tous les fronts. Nous devons faire des choix et ne pas accomplir certaines choses. Mais attention, ce doit être vraiment parce que notre devoir d'État nous appelle à faire autre chose de plus important. Mais sinon, il faut accomplir tous ces actes d'amour. Car même s'ils nous apparaissent inutiles, ces actes d'amour sont ce qu'il y a de plus important à faire, puisque l'amour est notre valeur suprême. Peut-être connaissez-vous Mère Geneviève Gallois, qui a vécu au siècle dernier et qui a été une grande artiste parisienne avant de devenir une bénédictine cloîtrée. Eh bien, lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que les bombardements allaient de bon train et que les bombes pleuvaient autour du monastère, elle s'est dit « À quoi bon cirer le parquet ? Dans 5 minutes, nous serons en poussière, le parquet et moi. » Après quelques jours, ayant échappé au massacre, elle a communiqué ses réflexions à un révérend père bénédictin. Et voici ce qu'il a répondu. « Continuez à cirer le parquet par amour de Dieu, car votre amour ne mourra pas. » Eh bien, c'est ce que nous devons nous dire face à tous ces petits actes d'amour qui nous semblent inutiles, qui ne sont vus de personne, qui ne semblent pas porter de fruits. Mon amour ne meurt pas et ces petits riens sont éternels. Et je vous promets que si nous agissons de la sorte, eh bien, tout comme Sainte Véronique, en retirant son linge du visage du Christ, a vu émerveillée sa face divine imprimée dessus, au soir de notre vie, quand nous arriverons aux portes du paradis et que nous retirerons notre tablier de serviteur, dont nous nous serons servis pour éponger les larmes de nos proches et le sang de leurs blessures, au soir de notre vie, les endroits maculés de notre tablier ne formeront pas un gribouillis grossier, mais dessineront le visage du Christ. Amen.